sommes aujourd'hui le jeudi 2 février, vous êtes bien au Transversal, toujours hors les murs cette semaine, et je retrouve Jérémy Béchon qui me reçoit dans ses bureaux au sein de la compagnie Manifeste Rien pour évoquer ensemble et découvrir la dernière création de la compagnie qui s'intitule Les Rafles à Marseille d'un siècle à l'autre, qu'on pourra voir dès ce soir, c'est important, c'est le coup d'envoi, sur la scène du Théâtre de l'Œuvre. Donc c'est ce soir, bien sûr, et puis aussi demain et après-demain, donc les 3 et 4 février à 20h, Les Rafles à Marseille d'un siècle à l'autre, Jérémy Béchon avec Virginie Hemon, seule en scène. Les représentations sont précédées d'ateliers de médiation et de médiation et sciences humaines, c'est ce que je lis, animé par Vanessa Pedrotti. Avant de nous dire qui elle est et de nous la présenter, j'aimerais savoir dans quel état vous êtes avant cette première, Jérémy Béchon.
Ça va, un peu stressé, mais ça va.
Alors, en quoi c'était important? Donc, cette fois-ci, c'est avant la représentation qu'il y a l'intervention d'une médiatrice.
Ben en fait, c'est Vanessa Pedrotti, oui, notre médiatrice socioculturelle.
Et c'est la personne qui m'a accueillie tout à l'heure.
C'est ça.
Très bien.
C'est quelqu'un qui présente le sujet de la pièce au public avant que ceux-ci ne viennent voir la représentation. Pourquoi ? Parce que ces ateliers de médiation se font essentiellement dans les quartiers populaires, et qu'on sait que le théâtre aujourd'hui s'adresse aux classes moyennes ou aux classes bourgeoises, ou en tout cas aux gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre. Mais la plupart des gens ne vont pas au théâtre, et dans les classes populaires encore moins au théâtre. Donc pour nous, ce qui est important, c'est justement que le théâtre parle absolument à tout le monde. Et donc, il faut d'abord donner envie aux gens de venir voir cette pièce-là. Et ensuite, elle en profite pour présenter les enjeux de cette pièce, les enjeux historiques, de présenter le solo, de présenter... En gros, c'est... Quand quelqu'un des classes moyennes va voir un film, c'est parce qu'il a eu 9 fois sur 10 Télérama avant, il connaît le metteur en scène, il connaît le sujet, et finalement, il va voir la confirmation de ce qu'on lui a présenté ou non. Il s'agit de faire ce même travail-là, mais en créant autre chose pour un autre public, avec une autre culture à proposer, qui soit une culture de théâtre qui ressemble davantage à notre ville, qui ressemble davantage aux gens qui peuplent cette ville-là.
Mais alors, deux choses dans ce que vous dites. D'abord, je crois que tous les théâtres font ce travail de médiation. Non.
Non.
Ah non.
Non, non, ce travail de médiation, il se fait de plus en plus. Nous, ça fait des années qu'on le fait, mais maintenant, les grosses structures le font aussi.
Oui, c'est ça, les grosses structures. Je pensais à Jean-Pierre Raffaelli, qui longtemps a travaillé au Théâtre de la Criée. Et il allait dans les lycées, il allait dans les collèges, et il allait présenter les spectacles. Mais peut-être pour faire venir, justement, les étudiants ou les enfants au théâtre.
Oui.
Donc je pensais que ça se faisait tout le temps.
Jean-Pierre Raffaelli, qui a d'ailleurs formé en partie la comédienne
Virginie
Hemon.
Et
peut-être la différence de ce qu'on fait, c'est que nous, on va dans les centres sociaux, on va dans les quartiers où le théâtre ne va pas. Et j'ai énormément de respect pour Jean-Pierre Raffaelli,
oui,
mais quand,
oui,
il travaillait avec la Criée notamment, c'était pas dans cet ordre-là.
Non, c'est vrai.
Et ce qui n'enlève pas qu'il a fait des choses extraordinaires, c'est pas la question. Mais nous, encore une fois, on fait venir des gens qui n'entrent pas d'habitude dans les théâtres et dans les musées. Il y a une remarque qui m'a beaucoup touché de jeunes de Val-de-Caux, c'est un centre d'éducation populaire qui est extrêmement intéressant, avec qui on travaille, qui sont dans les quartiers nord à La Rose. Et les petits... on dit à la médiatrice, ce qui est bien quand on va voir un Manifeste Rien au Théâtre de l'Œuvre, c'est qu'on ne me rappelle pas tout le temps qu'on est des quartiers, comme quand on va au MUCEM.
Ah,
oui, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ce racisme-là de classe, cette violence symbolique dont parlait Bourdieu, invisible à l'œil nu, parce que les gens n'ont pas l'impression d'être comme ça, mais n'empêche que ça existe. C'est une remarque qui m'a beaucoup touché. Parce que c'est justement tout l'intérêt du travail qu'on fait, c'est de trouver ce lieu de spectacle et d'échange où nous sommes au même niveau.
Ce qui veut dire que vous faites un travail de médiation à l'extérieur du théâtre,
oui.
Mais ensuite, j'ai vu avant les représentations, donc c'est pas au théâtre, il n'y a pas de la médiatrice ne vient pas parler du spectacle avant le spectacle au théâtre.
Non, 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 elle va...
J'avais mal compris.
Non, non, elle va plusieurs semaines en amont dans les centres sociaux, ou dans les écoles, dans les maisons pour tous, dans les foyers de travailleurs aussi. pour présenter la pièce qui se jouera la semaine prochaine ou le mois d'après.
Et vous avez de nombreux... ça marche bien ?
Ah oui, oui, on n'arrive même pas à répondre à la demande en fait d'ateliers et de spectacles dans les quartiers qu'on a générés, parce que il faudrait avoir deux médiatrices, parce que là on a du mal à répondre à la demande des quartiers, des centres sociaux avec lesquels on a réussi à créer ce désir de partage de théâtre et d'histoire.
Ce lien, ouais. Mais il faut dire que le théâtre de l'œuvre aussi, c'est un magnifique théâtre, un petit théâtre à l'italienne. Il n'y a pas énormément de place.
Alors il y a quand même, on peut aller jusqu'à, il y a 150 places et on peut aller jusqu'à 200 places tout de même, ouais. Donc
ça va.
Donc on peut quand même.
Ça va. Vous pouvez accueillir du monde.
On peut faire des choses. Et puis c'est un théâtre qui a énormément de hauteur, donc au niveau de la scène, donc le plateau est assez petit, mais il y a une qualité. Une qualité entre le rapport de la scène et de la salle qui est assez exceptionnelle.
La nouvelle création de Virginie Aymon et Jérémy Béchon continue d'explorer l'histoire de leur ville et du monde durant l'hiver 1943. Les rafles d'un siècle à l'autre, encore une fois, se réalise la nécessité de mettre en relation l'actualité, l'histoire et le rôle de l'artiste dans la société. Régulièrement, Jérémy Béchon, vous travaillez en étroite collaboration avec Marie Béchon, votre sœur,
oui.
Pour ne pas le cacher, hein, doctorante en anthropologie HESS. De quelle façon intervient-elle dans la création d'une pièce et en quoi sa participation est-elle importante, Jérémy Béchon?
Alors ça dépend des pièces. Sur La Marseillaise, etc., qui d'après les recherches à Armoyenne, mais qui est déjà une fiction historique que j'avais écrite, elle était allée chercher des témoignages qui nous intéressaient sur les gens issus de l'immigration par rapport aux questions d'identité nationale qu'ils subissaient via les médias. Donc elle récolte des témoignages qu'elle analyse par la suite, et ensuite on les réintroduit dans la pièce. Là, pour cette pièce, Les Rafles d'un siècle à l'autre, j'ai directement consulté en fait la thèse qu'elle a écrite sur Euroméditerranée et les aménageurs de territoire. Donc en fait, je suis allé directement puiser dans cette source bibliographique parce que j'ai suivi tout son processus d'écriture pendant des années et que je connaissais déjà énormément de choses, mais j'ai plongé directement dans sa thèse pour pouvoir créer les personnages qui sont plus les aménageurs qui sont plus contemporains dans notre pièce.
Ma question aussi, vous avez choisi le théâtre. Ma question, le rôle de l'artiste dans la société, et pourquoi avez-vous choisi le théâtre? Alors il y a deux questions. La première, d'abord, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer au théâtre, Jérémy Béchon?
Je pense que c'est vraiment parce que je suis tombé amoureux de Virginie Aymon quand j'avais 18 ans et qu'elle était comédienne professionnelle. Donc moi, j'écrivais de la poésie, j'écrivais des textes, je faisais de la musique aussi. Donc j'étais extrêmement attiré par la scène, j'en faisais déjà. Mais c'est vrai qu'elle était déjà professionnelle. Moi, je m'y suis mis beaucoup plus tard. Je fais beaucoup d'autres métiers avant d'arriver à devenir auteur-metteur en scène professionnel. Mais je la suivais dans les différentes productions qu'elle avait, puisqu'elle était professionnelle dès qu'elle avait 18 ans. Et donc, à force de la voir jouer les différents répertoires, les différentes pièces, et puis dès que je l'ai vue sur scène, dès qu'elle a joué, je me suis dit, ça ne sert à rien que j'essaye de chanter moi-même mes propres textes. C'est beaucoup plus intéressant que ce soit elle l'interprète. Et du coup, on est venu au théâtre d'abord par des formes hybrides, en travaillant ensemble, des formes de chansons, de poésie, mais qui n'étaient pas calibrées pour de la chanson, qui étaient beaucoup plus tordues, j'allais dire, enfin, qui duraient longtemps, ça ne pouvait pas rentrer dans un format de chanson. Donc peu à peu, on est allé comme ça vers le théâtre, quand on a pu aussi nous offrir un plateau, parce qu'à l'époque, on répétait dans un endroit exigu, et puis ensuite, c'est quand on a eu droit à un plateau théâtre, l'art théâtral qu'elle avait déjà emmagasiné a pu s'exprimer directement sur scène.
C'est une belle histoire, non?
Oui.
C'est une belle aventure.
Oui, oui, oui.
Bon. Votre prochain spectacle, ce sera quoi?
Ouf là, déjà.
Déjà, celui-là.
Je l'ai déjà en tête.
J'imagine.
Je l'ai déjà en tête, mais je garde la surprise pour la prochaine.
Oui, vous avez raison.
J'ai peur de l'éventer, je suis un peu superstitieux.
Mais vous avez raison. Et le rôle de l'artiste dans la société, alors?
Ben c'est une question qui est complexe. Enfin, je vais donner ma version qui est assez subjective. Je pense que l'artiste doit être le plus honnête possible. Et moi, en tout cas, dans cette recherche d'honnêteté que je cherche, que j'ai sans cesse quêté, on m'a sans cesse renvoyé à la lutte. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui est très politique. Enfin, les gens parlent toujours de notre théâtre comme étant un théâtre engagé.
Engagé.
Au bon sens du terme. Oui. Hein, il ne s'agit pas d'être encarté, mais il s'agit de porter des questions qui posent problème aujourd'hui et de poser le problème différemment de ce qu'on en entend d'habitude. Donc, l'artiste, pour moi, doit être un artiste qui lutte. Mais je veux dire, la lutte, je ne me suis pas dit je vais faire du théâtre pour lutter. C'est-à-dire que ça a toujours été pour moi un mode d'expression. Je préfère le plateau que la vie, souvent. Je trouve que la vie au théâtre est plus concentrée, va plus vite et plus efficace que la vie qui se dispatche au rang de l'administration, de l'ennui, je sais, de toutes ces choses. Au théâtre, tout peut être recentré. L'amour peut être sans cesse au niveau d'incandescence, qui est malheureusement pas toujours dans la vie. Donc le rôle de l'artiste, c'est de se battre. Mais c'est parce que finalement, moi, toutes les questions que je soulevais étaient problématiques au vu de ce qui est posé dans le monde de la culture d'habitude. La question de l'immigration, la question des violences urbaines, la question du racisme, la question de la domination masculine. Mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais travailler sur ça. C'est au fur et à mesure de du processus d'écriture et de rencontre qu'on est allé vers ces thématiques.
On pourrait dire que ce sont des questions de société qui vous interpellent, qui vous interrogent et que vous avez envie de porter sur scène. Est-ce que ce serait juste ?
Oui, bien sûr. C'est les questions qui m'insupportent. Enfin, les problèmes sociaux qui m'insupportent, mais toujours en travaillant avec le fait de comment ces problèmes-là sont intériorisés. Et comment il ne s'agit pas seulement de combattre dans un aspect militant, seulement, c'est bien d'identifier l'oppresseur, on dira. Mais très souvent, on s'aperçoit qu'on est de connivence avec l'oppresseur. Et cette connivence-là, on ne la sait pas forcément. Et c'est toute cette complexité-là du pouvoir dans nos pièces et de l'amour aussi, hein, puisque les rapports de domination existent aussi malheureusement dans l'amour, les choses se mêlent. C'est tout ce qui est implicite et qui fait l'action qui m'intéresse de mettre à jour.
Donc pour
la résonance d'émotion, quoi.
Pour vous, le théâtre est porteur de ces questions de société ?
Oui, bien évidemment.
Mais il ne se réduit pas à une question de lutte. On est bien d'accord.
Oui, il s'agit de donner peut-être
à la... Il s'agit d'être engagé, simplement, d'une manière plus générale, dans votre travail.
Et puis il s'agit aussi de donner à la lutte toute la fête de la vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on pose ces questions-là, des questions d'immigration, des questions de... C'est souvent posé de manière très triste, je trouve. Alors que la vie bouillonne sans cesse tout le temps. Donc il s'agit de poser ces questions-là qui sont graves avec la légèreté qu'on peut retrouver dans la vie. Parce que par exemple, sur les rafles d'un siècle à l'autre, des gens qui, comme Emma Lashkar, qui est notre personnage, qui a vécu les camps de concentration, elle revient, elle rencontre quand même la vie, elle arrive quand même à manger de nouveau, elle arrive quand même à avoir ce désir de vivre, elle rencontre encore l'amour. Donc c'est ce bouillonnement-là qu'il s'agit de porter sur scène, et pas seulement l'horreur des camps.
Vous êtes, donc on a bien compris, votre source d'inspiration, ce sont les problèmes qui se posent au jour le jour, en particulier à Marseille, et en particulier aussi dans cette pièce des rafles, justement, de 1943. Est-ce que, pour vous, le fait d'avoir été ou d'être un fils d'immigré, puisque votre... Enfin, je le dis comme ça, je sais que votre... Enfin, je sais, j'ai lu que votre père et votre... Enfin, vos grands-parents et vos parents sont nés en Algérie. Vous-même, vous êtes né à Marseille. Est-ce que vous pensez que vous auriez... est-ce que vous pensez que cette ascendance-là a une incidence sur votre travail ?
Oui, c'est certain.
Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ?
C'est certain, mais déjà j'ai fait 3 pièces sur l'Algérie. C'est pareil, j'aurais jamais pensé. Enfin, c'était pas une volonté, hein, c'est venu au fur et à mesure. Et quand on commence à creuser une question, ça en révèle une autre et on ne s'arrête plus. Mais oui, c'est évidemment qu'il y a d'une part le traumatisme, ce sont des exilés.
De vos parents
qui sont de mes grands-parents aussi.
Grands-parents.
Et Oui, par rapport à l'appartenance à Marseille, c'est très fort. Après, c'est étonnant parce que mes cousins, cousines ne l'ont pas forcément en ayant grandi dans d'autres villes. Je sais que ma sœur partage aussi cet attachement très fort, par contre, à la ville de Marseille. Mais je sais que très jeune, j'ai compris que j'allais peut-être être le premier de ma famille depuis plusieurs générations, parce que mes grands-parents aussi, mes arrière-grands-parents aussi, étaient des gens qui avaient énormément bougé, ce que j'ai découvert par la suite.
Des exilés, donc.
Des exilés aussi.
Ils n'étaient pas originaires d'Algérie, ils venaient d'ailleurs.
Non, c'était des pieds noirs, comme on dit, donc des gens qui viennent de Sicile, d'Espagne, de Malte. Et le premier de plusieurs générations à naître et mourir en face des mêmes collines. Je sais que c'est quelque chose que je m'étais dit.
C'est-à-dire trouver un ancrage.
Oui, trouver un ancrage.
Des racines.
Et je sais que pour ma mère, ça a été extrêmement important de ne pas nous présenter, parce qu'on est né à Marseille, mais que c'était une chance et c'était enfin des racines qui se replantaient quelque part, parce que mes parents sont arrivés assez tard à Marseille, et il n'y a que là que quelque chose a pu se reconstruire, puisque nous, on est nés aussi, mais... Donc forcément, c'est lié, oui.
Selon l'expression « faire souche ».
Oui.
Mais du coup, non, mais c'est l'expression consacrée.
Oui, même si je ne crois pas trop au français de souche, par contre.
Ah non, mais alors, je sais que c'était pas ça.
Je sais
non,
que
non,
pas
non,
ça.
Simplement, justement, par rapport... Je suis un peu dans le même cas que vous, mais peu importe moi. En tout cas, il y a énormément de gens à Marseille qui viennent d'ailleurs et qui... décide de vivre à Marseille et peut-être de mourir à Marseille parce que justement ça ne plus avoir ne plus être un enfant de l'exil. Mais c'est vous qui êtes...
ce qui est pas mon cas, hein, parce que moi je l'ai jamais vécu, mais en fait il se trouve que ces traumatismes là se véhiculent
de génération
même
en génération.
Même quand c'est pas communiqué par la parole, hein, c'est
absolument.
Ça qui est, même quand il y a tabou sur la question, ces choses-là. Et puis, bon, Marseille, forcément, on côtoie tellement de gens d'origine différente à Marseille aussi que c'est... Et puis, les habitants de Marseille ont subi, Marseille a subi elle-même le stigmate d'une ville proscrite. Marseille a été quand même la ville sans nom, elle a perdu son nom sous la Révolution française, enfin... mise sous tutelle en 1938, Marseille-Chicago. Et quand j'étais petit, dès que je sortais de Marseille, maintenant ça a un petit peu changé, mais ça me frappait. Quand je disais que j'étais de Marseille, on me regardait comme si j'étais sale.
Oui, ah
donc
oui.
Après, il y a toujours cette idée qu'on retrouve dans le racisme sur les immigrés, de la saleté. Ça forge une identité. Et comme disait Sayad, souvent on renverse le stigmate. C'est-à-dire qu'on se sert de ce qui nous stigmatise pour le porter comme un étendard et comme une identité.
À ce propos, et on en aura bientôt terminé de notre entretien aujourd'hui et cette semaine, je ne sais plus quelle est ma question. Ce que je voulais vous demander, c'est quelles sont vos sources d'inspiration au niveau de la littérature ou de la poésie ?
Il y en a tellement parce que je passe plus de temps à lire qu'à vivre, déjà. Donc je lis en permanence, mais je citerai beaucoup de la littérature américaine.
Ouais.
Brautigan, Bukowski, John Fante, c'est des auteurs qui m'ont vraiment, vraiment formé. Ensuite, la littérature plus classique. Aussi du 19e, comme Baudelaire, des choses...
La poésie.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. Artaud, moi aussi énormément, Antonin Artaud, moi aussi énormément influencé. Voilà.
Bon, en tout cas, la première, c'est ce soir. Alors, je vais lire le pitch. Une famille juive qui débarque d'Algérie, les Napolitains de Saint-Jean, le maire, la mafia, les architectes urbanistes d'hier et d'aujourd'hui, les hauts dignitaires nazis... Et je cite encore, dans l'espace d'un seul spectacle, grâce à l'invention d'un geste approprié ou bien à la faveur d'un changement de registre de voix, Virginie est capable d'endosser une trentaine d'identités. Et l'article poursuit, toujours l'article d'Alain Père du journal La Marseillaise. Jérémy Béchon, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte ?
Non, venez voir ce spectacle parce qu'il est...
Ah mais oui, j'ai combien et j'ai amené du monde.
Non, parce qu'il est jubilatoire, c'est-à-dire que malgré si les questions soulevées sont un peu... Sont difficiles, on a réussi à le traiter avec la vie qui était porté par ces habitants-là à l'époque et par, par cette force-là d'humour, de dérision.
Qui fait poésie, que c'est
de poésie, qui reste les seuls remparts dans la, qu'on retrouve souvent comme témoignage dans la barbarie la plus atroce. Et c'est cette source de vie et de poésie qui nous a inspirés et non la barbarie.
Donc, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy Béchon. Donc, c'est ce soir au Théâtre de l'Œuvre, à 20h.
À 20h, ouais.
Nous y serons.
Avec plaisir.
À partir de ce soir, parce que c'est encore vendredi et samedi. Notre entretien est maintenant terminé. Jérémy Béchon, merci de m'avoir reçu dans vos bureaux.
Merci beaucoup.
Les bureaux de la compagnie. Et alors que vous êtes à la veille de, votre, de la première de votre spectacle, merci encore et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Euromètre, c'est dead, ça pue le béton véreux. Marché pour idylle et à des coupes un peu scrupuleux. Le résultat du vent qui frappe des tours en bois. Peine de pied de métropole, c'est du n'importe quoi. Les familles qui comptent veulent une ville verrouillée. Résidence, digicode, caméra installée. Il y a deux villes, et c'est ça le drame. C'est plus dur d'entrer à Thalassa qu'à la Castellane. Deux villes côte à côte qui ne communiquent plus. Car si tu es né du mauvais côté, c'est pas de cul. Y'a rien pour toi, demain c'est fait harakiri. À part le réseau, le chômage ou la Syrie. On dit Marseille rebelle, en fait elle est cubénie. Dirigée par des cubénis pour de pauvres cubénis. Rue paradis fiscal, il n'y a que des affranchis. Des brêles de l'appel qui pue l'opus Dei. C'est entre soi contre entre soi, gentiment avec l'accent. On croit qu'en disant fier d'être marseillais, on est vivant. Quand on le gueule au stade, on pense qu'on est unis. Mais quand on ressort, on sait bien que tout est fini. L'identité qui nous cimentait tous s'est diluée. En un repli sur soi qui empêche de raisonner. On est les rois de la punchline, les meilleurs au micro. Roue arrière sur Notre-Dame, calage dans les vidéos. Ça fait rire deux minutes, mais ça sent trop le sapin. Toutes les semaines, un gamin bute notre gamin. Les grands frères n'ont plus la main, les cakes ont fait faillite. La ville est livrée aux malins, y'a tout qui périclite. Où es-tu, porte du sud, carrefour des illusions. Terminus d'aventurier en quête de collusion. Cet ailleurs fantasmé n'existe plus. C'est malheureux, Marseille est à la rue.
C'est malheureux, ma Marseille est à la rue. Ma Marseille est à la rue. Comme tu étais, comme tu es devenu. Ma Marseille.
C'est malheureux,
ma Marseille est à la rue. Ma Marseille est à la rue. Comme tu étais, comme tu es devenu. Ma Marseille.
C'est malheureux.
C'est malheureux.
Si Marseille est à la rue, alors il faut faire en sorte que la rue soit à Marseille, et cela de porte en porte. Ici aussi on n'en peut plus, et nos vieux démons ressortent. C'est vrai que le crime paye, on sait bien ce qui rapporte. De la rose au courgis, d'un bout à l'autre de la côte. Certains sont pleins d'oseille et l'argent circule entre potes. Ces gens nantis et repus usent de manière forte. Des avocats, les conseillers, ils en ont des cohortes. La fabrique du monstre n'est pas prête de fermer. Ici c'est la seule usine qui n'arrête pas d'embaucher. Perso moi ça me déprime, je le vois dans mon quartier. Trop de mauvaises réponses, trop de questions mal posées. Le président et ses ministres viennent souvent nous visiter. C'est le préfet qui les assiste à grand renfort policier. Pas la peine qu'on leur explique, leur siège est déjà fait. Au nom de la République, il faut mater ces Marseillais. Il faut mater ces Marseillais qui parlent d'identité. Ce sont des séparatistes, vite il faut légiférer. Ils signent et ils persistent, tous d'accord à l'Assemblée. Plus aucun doute ne subsiste, on n'est pas du bon côté. Si tu veux être français, tu dois pas sortir de la piste. Et dans le pays entier, on voit s'allonger la liste de ceux qui ont dérapé vers les théories fascistes. C'est à se demander qui sont les intégristes. Ici il faut m'excuser si j'ai un peu digressé, mais en tant que Marseillais je me sens agressé par un système mondial. Je me sens manipulé, tout ça n'est pas normal, moi ça me fait flipper. Tu parles d'un travail, qui pourra donc redresser le putain de gouvernail sur cette mer démontée. Il va falloir mettre le why si on veut s'en tirer avec le moindre mal, tout en restant ce qu'on est.
C'est malheureux. Ma Marseille est à la rue. Ma Marseille est à la rue. Comme tu étais, comme tu es devenu. Ma Marseille.
C'est malheureux.
Ma Marseille est à la rue. Ma Marseille est à la rue. Comme tu étais, comme tu es devenu.